Chapitre 41. 17 août 1994. Il est 14h. Nina est assise sur le canapé des Beaulieu, dans cette salle à manger où elle a dansé si souvent. Elle regarde sans les voir les dernières personnes qui ont assisté aux funérailles. Celles qui mangent quelque chose avant de reprendre la route. Quelle route ? Pierre ne connaissait que les gens d'ici. Il n'avait jamais voyagé qu'à travers les cartes postales qu'il distribuait. Les Damam ne sont plus là. Emmanuel est passé rapidement. Nina a senti qu'il voulait la retrouver ce soir, mais il n'a pas osé le formuler. Ou il l'a fait, mais elle ne s'en souvient pas. Deux couverts seront dressés par un personnel invisible sur la table de sa cuisine, mais elle n'ira pas. Elle n'y retournera sans doute plus. Dans 15 jours, elle quittera la Comelle. Reste à savoir qui récupérera les animaux. Marie-Laure et Joséphine se sont dévouées. La chienne et deux chats dans la maison de l'une, et les deux autres, plus vieux, dans l'appartement de l'autre. Depuis qu'elle est revenue de Marseille, Nina n'est pas retournée chez elle. Ils lui ont tous enjoint de s'en tenir éloignée, comme si son grand-père avait miné le jardin avant de mourir, que la scène de crime se situait là. Seule Joséphine passe nourrir et promener Paola matin et soir, ouvrir les volets et les fenêtres pour aérer un peu. Maintenant, il faut rentrer. Nina veut s'échapper, retrouver ses affaires, sa chambre. Elle va le faire seule, affronter. Se glisser hors de chez Étienne quand ce sera le bon moment, que personne ne s'en aperçoive. Elle téléphonera au garçon plus tard pour qu'il la rejoigne. Dans un premier temps, elle a besoin de cette solitude. Perdre son grand-père l'a fait vieillir. Elle a le sentiment d'avoir 100 ans, tant bouger lui coûte. À l'extérieur, le soleil est toujours brûlant. Nina ne peut s'empêcher de songer à son grand-père. A-t-il chaud ou froid dans son trou ? Elle longe l'ombre des rues et se retrouve devant chez elle en quelques minutes. Elle pousse le portail. Paola dort sous un arbre, dans le panier installé par Pierre, à côté d'une chaise à bascule sur laquelle il a fait des années de sieste. Nina va s'asseoir dessus, ferme les yeux, accroche ses mains à la fourrure de sa chienne. Deux chats font leur apparition dans ses jambes. La vie ne sera plus jamais comme avant. C'est une phrase débile pour mauvais saupe débile, mais n'empêche, pense Nina, la vie ne sera plus jamais comme avant. Au fond, elle était douce, tranquille, gâtée, cette vie auprès de son grand-père. Quand est-ce qu'elle l'a vue pour la dernière fois ? Le soir où ils ont dîné tous les trois dans le jardin avec Adrien. Elle lui a dit « Bonne nuit, papy !» vite fait, sans redescendre pour l'embrasser. Le lendemain matin, il était déjà parti travailler quand elle s'est levée. Et puis il y a eu Marseille, la fuite avec Adrien, la force de son ami pour la protéger. Sa force ou sa faiblesse, il avait peut-être peur de porter le chagrin de Nina tout seul. Alors il l'a emmenée ailleurs, en attendant que Marie-Laure se farcisse le sale boulot. Elle se trouve dure avec lui, mais elle ne peut pas s'empêcher d'y penser. Cette parenthèse marseillaise, était-ce un geste d'amour ou de lâcheté ? En poussant la porte de la maison, elle ressent un malaise, un vertige, un mauvais présage, comme si elle pénétrait dans un lieu inconnu et hostile. Alors qu'elle voulait juste être seule, en tête-à-tête avec les affaires de Pierre Beau pour s'habituer au néant, ranger, trier, relire, lorsqu'elle franchit le seuil de la cuisine, elle s'aperçoit que tous les placards entrouverts ont été vidés. Plus aucune trace de nourriture, même le sel et le poivre ne sont plus à leur place. Ne reste que la table, sans les chaises. Par réflexe, Nina ouvre le frigidaire. Il est vide lui aussi et on l'a débranché. Elle ne comprend pas. C'est comme si un déménagement se préparait. Sans rien anticiper, sans doute par réflexe, parce que c'est le mot qu'elle a le plus prononcé depuis sa naissance, Nina appelle. « Papy ?» Sa voix résonne sans écho. Elle retient son souffle quand elle pénètre dans la chambre de Pierre Beau à l'étage. Tout a disparu. On a cambriolé sa vie. Leur vie. Plus de 33 tours. Plus de tourne-disques, de vêtements, de draps, de lits. Ne reste que la grande armoire démontée. Même les photos ont disparu. Pour Nina, c'est une deuxième mort, une trahison, un coup de grâce. Mais qui a fait ça ? Joséphine, impossible. Marc et Marie-Laure Beaulieu ne l'ont pas quitté. Jamais ils n'auraient osé. Jamais il ne chercherait à lui nuire. Forcément des étrangers, un vol. Quelqu'un a profité du décès de son grand-père pour visiter leur maison. Pierre lui a un peu parlé d'opportuniste qui étudie les avis de décès, cherche l'adresse du disparu, remarque les volets fermés ou les boîtes aux lettres pleines et vole tout avant la succession. Mais dans une petite baraque d'ouvriers comme la leur, à part les liens d'amour qui les unissaient, rien n'avait de valeur sous ce toit. Peut-être les livres reliés en cuir, toute l'œuvre de Victor Hugo, qu'une grande dame lui avait offert au début, quand il était jeune facteur. L'ensemble de la collection a disparu de sa chambre avec le reste. Il était si fier de son trésor. À chaque fois qu'il avait un souci d'argent, Pierre disait à Nina, « S'il le faut, je vendrai Victor Hugo. » Nina hésite à aller dans sa propre chambre, située à quelques mètres au bout du couloir étroit. Les cambrioleurs sont peut-être toujours là, planqués quelque part. Elle se fait l'effet d'une étrangère dans sa propre maison. On lui a tout pris en quelques jours. Nina appelle Paola. La chienne monte l'escalier et pose sa truffe humide dans sa main. Nina pense qu'elle ne pourra jamais se séparer de ses animaux. Plus maintenant. Elle pousse la porte de sa chambre. Rien ne semble manquer. Les posters et les photos sont toujours accrochés au mur. Les cassettes audio, les romans, les fusains, les huiles en bâton. Elle ouvre les tiroirs de sa commode et retrouve ses sous-vêtements et ses draps de bain. Tout a été fouillé et rangé approximativement. C'est comme un viol. On a touché à ses effets personnels. Elle descend dans le petit salon. Il n'y a plus de table basse, de télévision, ni de magnétoscope. Même les VHS ont disparu. Ses films et ceux de son grand-père, elle lui avait offert l'intégrale de Jean Gabin à Noël dernier. Le vieux canapé si moche que Nina avait recouvert de draps évaporé. L'accident leur a volé la vie, ce cambriolage leur quotidien. Nina s'assied sur le sol, attendant que sa crise d'asthme foudroyante passe. Elle reste ainsi une bonne heure jusqu'à ce qu'elle entende les voix d'Adrien et Étienne à l'extérieur, qui la sortent de sa torpeur. Ils la retrouvent là, assise par terre, Paola près d'elle, au milieu de sa maison dépouillée, avec le souffle qui déraille et une envie irrépressible de mourir.